Compréhension de l'oral, niveau fondamental. Vous avez 2 minutes pour lire les consignes. Sujet numéro 1, document sonore, première écoute.
Lors du Forum des idées, le plaisir de recevoir Leïla Relly. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la fondatrice de l'association Envers et contre tout, Vert, V-E-R-T. Vous avez popularisé le mouvement février sans supermarché et vous remettez ça avec un été sans supermarché. Alors rappelez-nous tout d'abord quel en est l'objectif.
Alors l'objectif, c'est de repopulariser les marchés, c'est de soutenir les épiceries locales, les épiceries de quartier, les commerces indépendants, les vieilles quincailleries qui commencent à disparaître et aussi les fermes, les petites exploitations agricoles.
Mmh. D'où vous est venue l'idée ?
Alors l'idée, c'est pas moi qui l'ai eue, ça a déjà été fait plusieurs années,
il y a 6 ans
avant.
À peu près.
Nous on avait lancé Février sans supermarché, c'était un défi collectif, donc on invitait la population à se mobiliser ensemble, donc on a créé des groupes Facebook d'entraide pour s'échanger des bonnes adresses, des astuces également pour économiser des sous tout au consommant local.
Justement, comment s'y prend-on pour participer à ce défi été sans supermarché?
Alors c'est assez simple, il y a plusieurs niveaux d'implication. Alors on peut simplement décider qu'on va dorénavant acheter le pain à la boulangerie. Ça c'est peut-être quelque chose de très simple, ou alors simplement aller au marché. Et puis après il y a les personnes qui vont s'impliquer un peu plus et qui vont totalement boycotter les supermarchés. Mais si on va au supermarché, c'est quand même on n'a pas loupé le défi pour autant. Donc le but c'est vraiment de soutenir au maximum de ces possibilités.
On ne trouve pas tous les articles. En vrac c'est bien beau de se dire évitons d'aller au supermarché, mais je ne sais pas, moi, le papier toilette, on ne le trouve pas chez un épicier, non ?
Non, mais par contre, je ne sais pas si on peut faire de la pub, mais il y a une petite entreprise genevoise qui a lancé un concept de livraison de papier toilette à domicile. Il est recyclé, il est livré sans plastique. Donc, c'est aussi on peut trouver de tout hors supermarché. Et ce n'est pas que les épiceries en vrac, c'est aussi, comme je disais, des quincailleries,
Alors, justement, c'est pour conserver cet écosystème, ces indépendants. C'est effectivement que vous avez lancé cette initiative, mais en même temps, les supermarchés, eux aussi, sont pourvoyeurs d'emplois. Les boycotter, ça serait mettre en danger, non, ces emplois ?
Alors déjà, sur les 3,5 millions de foyers, de ménages qu'il y a en Suisse, je ne pense pas que tout le monde participe, donc ça va. Ils font des marges suffisamment confortables pour pouvoir se passer de quelques clients. Mais nous, en fait, un emploi créé dans la grande distribution, c'est 3 à 5 qui disparaissent ailleurs dans le tissu social. On a 75 boulangeries qui disparaissent en Suisse par année parce que les gens préfèrent acheter le pain au supermarché parce que c'est souvent plus pratique, on achète ça en même temps que le reste. Il y a 30 000 fermes qui ont disparu en Suisse entre 1996 et 2018. Donc, pour dire qu'on est passé de 80 000 à 50 000 fermes, mais que la surface exploitée n'a pas diminué. Mmh. Donc, on va toujours sur une pression sur les agriculteurs. On a des emplois qui disparaissent en Suisse, c'est une réalité. Mmh. Et justement, ce mouvement essaye de redonner un peu de sens à l'emploi local.
Les supermarchés s'adaptent, hein, eux aussi. Ils vendent aussi du bio, des fruits et légumes en vrac.
Mmh. Alors ça, ça s'ajoute à tout le reste. Mais oui. La pression, justement, sur les producteurs est toujours pareille. Il y a eu récemment des révélations qui étaient faites sur les produits laitiers. Le but, c'est vraiment aussi de réduire le lien entre les consommateurs et consommatrices et les producteurs-productrices. Et donc aussi de payer un prix plus juste qui revient directement aux personnes qui produisent.
Oui, parlons des prix. Précisément, on est en période d'inflation, hein, avec les prix qui s'envolent actuellement. Est-ce que c'est le bon moment pour lancer un été sans supermarché?
C'est toujours le bon moment. alors, c'est le bon moment parce qu'on a été alerté, donc ma collègue Marie Dedon, Beatrashy, et moi-même par plusieurs épiceries qui sont en difficulté. Il y en a quelques-unes qui ont déjà fermé. Donc, les commerces indépendants sont en grande difficulté. Justement, on essaie de relancer le mouvement en milieu d'année pour essayer justement de les favoriser, de sauver les personnes qui le méritent.
Mais est-ce que cet été sans supermarché, ce n'est pas tout de même une opération pour les classes moyennes supérieures, si j'ose dire?
Alors, si enfin, ce défi, il est global. Donc, on a du locavorisme, on a du zéro déchet. En fait, on peut répartir son budget de manière assez intelligente, assez habile et assez facilement. Ce qui fait que non, on ne dépense pas forcément plus, mais on dépense mieux.
Ça s'appelle un été sans supermarché. Ça a démarré déjà, votre
oui,
défi?
Oui, c'est tout l'été. Voilà. Ouais.
Donc, il faut quoi? Il faut s'inscrire sur les groupes Facebook?
Pas forcément. Chacun peut faire comme il veut. Il y en a des personnes qui font des groupes WhatsApp en famille, mais on a des groupes Facebook régionaux pour pouvoir justement échanger des bonnes adresses et des astuces.
Merci beaucoup, Leïla Reli. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'association Envers et Contre Tout. Bonne soirée.
À vous aussi. Merci.
Sujet numéro 1, document sonore, deuxième écoute.
Lors du Forum des idées, le plaisir de recevoir Leïla Reli. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la fondatrice de l'association Envers et Contre Tout, Vert, V-E-R-T. Vous avez popularisé le mouvement février sans supermarché et vous remettez ça avec un été sans supermarché. Alors rappelez-nous tout d'abord quel en est l'objectif.
Alors l'objectif, c'est de repopulariser les marchés, c'est de soutenir les épiceries locales, les épiceries de quartier, les commerces indépendants, les vieilles quincailleries qui commencent à disparaître et aussi les fermes, les petites exploitations agricoles.
D'où vous est venue l'idée ?
Alors l'idée, c'est pas moi qui l'ai eue, hein. Ça a déjà été fait plusieurs années,
il y a 6 ans
avant.
À peu près. Hein.
Donc nous on avait lancé Février sans supermarché, c'était un défi collectif, donc on invitait la population à se mobiliser ensemble. Donc on a créé des groupes Facebook d'entraide pour s'échanger des bonnes adresses, des astuces également pour économiser des sous tout au consommant local.
Justement, comment s'y prend-on pour participer à ce défi Été sans supermarché?
Alors c'est assez simple, il y a plusieurs niveaux d'implication. Alors on peut simplement décider qu'on va dorénavant acheter le pain à la boulangerie. Ça c'est peut-être quelque chose de très simple, ou alors simplement aller au marché. Et puis après il y a les personnes qui vont s'impliquer un peu plus et qui vont totalement boycotter les supermarchés. Mais si on va au supermarché, c'est quand même on n'a pas loupé le défi pour autant. Donc le but c'est vraiment de soutenir au maximum de ces possibilités.
On ne trouve pas tous les articles. En vrac c'est bien beau de se dire voilà, évitons d'aller au supermarché, mais je sais pas, moi, le papier toilette, on ne le trouve pas chez un épicier, non?
Non, mais par contre, je ne sais pas si on peut faire de la pub, mais il y a une petite entreprise genevoise qui a lancé un concept de livraison de papier toilette à domicile. Il est recyclé, il est livré sans plastique. Donc, c'est aussi on peut trouver de tout hors supermarché. Et ce n'est pas que les épiceries en vrac, c'est aussi, comme je disais, des quincailleries,
Alors, justement, c'est pour conserver cet écosystème, hein, ces indépendants. C'est effectivement que vous avez lancé cette initiative, mais en même temps, les supermarchés, eux aussi, sont pourvoyeurs d'emplois. Les boycotter, ça serait mettre en danger, non, ces emplois?
Alors déjà, sur les 3,5 millions de foyers, de ménages qu'il y a en Suisse, je ne pense pas que tout le monde participe, donc ça va. Ils font des marges suffisamment confortables pour pouvoir se passer de quelques clients. Mais nous, en fait, un emploi créé dans la grande distribution, c'est 3 à 5 qui disparaissent ailleurs dans le tissu social. On a 75 boulangeries qui disparaissent en Suisse par année parce que les gens préfèrent acheter le pain au supermarché parce que c'est souvent plus pratique, on achète ça en même temps que le reste. Il y a 30 000 fermes qui ont disparu en Suisse entre 1996 et 2018. Donc, pour dire qu'on est passé de 80 000 à 50 000 fermes, mais que la surface exploitée n'a pas diminué. Donc, on va toujours sur une pression sur les agriculteurs. On a des emplois qui disparaissent en Suisse, c'est une réalité. Et justement, ce mouvement essaye de redonner un peu de sens à l'emploi local.
Les supermarchés s'adaptent, hein, eux aussi. Ils vendent aussi du bio, des fruits et légumes en vrac.
Alors ça s'ajoute à tout le reste, mais la pression justement sur les producteurs est toujours pareille. Il y a eu récemment des révélations qui étaient faites sur les produits laitiers. Le but, c'est vraiment aussi de réduire le lien entre les consommateurs et consommatrices et les producteurs-productrices. Et donc aussi de payer un prix plus juste qui revient directement aux personnes qui produisent.
Oui, parlons des prix précisément. On est en période d'inflation, hein, avec les prix qui s'envolent actuellement. Est-ce que c'est le bon moment pour lancer un été sans supermarché?
C'est toujours le bon moment. Alors c'est le bon moment parce qu'on a été alertés, donc ma collègue Marie de Don't Be Trashy et moi-même par plusieurs épiceries qui sont en difficulté. Il y en a quelques-unes qui ont déjà fermé. Donc les commerces indépendants sont en grande difficulté. Justement, on essaie de relancer le mouvement en milieu d'année pour essayer justement de les favoriser, de sauver les personnes qui méritent.
Mais est-ce que cet été sans supermarché, ce n'est pas tout de même une opération pour les classes moyennes supérieures, si j'ose dire?
Alors si enfin ce défi il est global, donc on a du locavorisme, on a du zéro déchet. En fait, on peut répartir son budget de manière assez intelligente, assez habile et assez facilement, ce qui fait que non, on dépense pas forcément plus, mais on dépense mieux.
Ça s'appelle un été sans supermarché. Ça a démarré déjà, votre défi?
Oui, c'est tout l'été. Voilà.
Ouais. Donc il faut quoi? Il faut s'inscrire sur les groupes Facebook?
Pas forcément. Chacun peut faire comme il veut. Il y en a des personnes qui font des groupes WhatsApp en famille, mais on a des groupes Facebook régionaux pour pouvoir justement échanger des bonnes adresses et des astuces.
Merci beaucoup, Leïla Reli. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'association Envers et Contre Tout. Bonne soirée.
À vous aussi. Merci.
Sujet numéro 2. Vous avez une minute pour lire les consignes. Sujet numéro 2, document sonore, première écoute.
France Info.
Les Français adorent les villes moyennes. Ils sont 43% à les préférer contre 22% pour les grandes villes. Bonjour Cécile Maisonneuve.
Bonjour.
Est-ce que ma ville demain sera ville moyenne ?
Alors c'est vrai, les Français sont fans de la ville moyenne, surtout depuis le confinement. La grande ville ne fait plus rêver. C'est 28% des habitants des villes de plus de 100 000 habitants qui disent aujourd'hui vouloir déménager, chiffre qui monte à 38% dans l'agglomération parisienne. Alors déménager, oui, mais pour aller où ? Saint-Malo, Roanne, Menton ou Montargis ? Vous allez me dire, toutes ces villes n'ont rien à voir ensemble, et pour cause. La ville moyenne n'existe pas, c'est un fantasme français.
Mais il existe bien une définition de la ville moyenne qui permettrait d'y voir plus clair.
Oui, il y a une définition, elle est d'ailleurs différente selon les pays. En Chine, la ville moyenne, c'est entre 500 000 et 1 million d'habitants. Si elle était chinoise, Marseille, qui est quand même la deuxième plus grande ville française, serait considérée comme une ville moyenne. Alors en France, évidemment, le chiffre est plus bas, entre 10 000 et 100 000 habitants. On ratisse large, autant dire que sous ce label se côtoient des villes très très différentes, dont il est impossible de brosser le portrait robot. Certaines sont industrielles, d'autres résidentielles, certaines sont en plein boom, d'autres perdent des habitants. Il y en a encore d'autres qui ont un centre-ville totalement dévitalisé, mais qui s'étendent en périphérie.
Alors la ville moyenne est un objet urbain non identifié, qu'est-ce qui la rend si séduisante aux yeux des Français ?
En fait, c'est avant tout une question de perception. Les Français y voient un havre de paix au charme d'antan, loin des cœurs de métropole et de leurs prix démesurés. La ville moyenne rassure. Elle rassemble le meilleur des deux mondes, une sorte d'entre-deux entre la ville et la campagne. Ça, c'est pour la perception. Côté réalité, que nous montrent les chiffres de l'INSEE ? Ce qui intéresse les Français dans leur choix de résidence, ce sont les opportunités d'emploi, de formation, de projet. C'est pourquoi il y a fort à parier que ma ville demain, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, sera toujours située dans une aire urbaine parce que c'est là que se créent les emplois et se développe l'innovation. Et ça ne nous empêchera pas de continuer à fantasmer sur la ville moyenne.
Et oui, on n'arrête pas comme ça. Merci beaucoup Cécile Maisonneuve. Ma ville demain, c'est tout l'été sur France Info.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
France Info.
Les Français adorent les villes moyennes. Ils sont 43% à les préférer contre 22% pour les grandes villes. Bonjour Cécile Maisonneuve.
Bonjour.
Est-ce que ma ville demain sera ville moyenne ?
Alors c'est vrai, les Français sont fans de la ville moyenne, surtout depuis le confinement. La grande ville ne fait plus rêver. C'est 28% des habitants des villes de plus de 100 000 habitants qui disent aujourd'hui vouloir déménager, chiffre qui monte à 38% dans l'agglomération parisienne. Alors déménager, oui, mais pour aller où ? Saint-Malo, Roanne, Menton ou Montargis ? Vous allez me dire, toutes ces villes n'ont rien à voir ensemble, et pour cause. La ville moyenne n'existe pas, c'est un fantasme français.
Mais il existe bien une définition de la ville moyenne qui permettrait d'y voir plus clair.
Oui, il y a une définition, elle est d'ailleurs différente selon les pays. En Chine, la ville moyenne, c'est entre 500 000 et 1 million d'habitants. Si elle était chinoise, Marseille, qui est quand même la deuxième plus grande ville française, serait considérée comme une ville moyenne. Alors en France, évidemment, le chiffre est plus bas, entre 10 000 et 100 000 habitants. On ratisse large, autant dire que sous ce label se côtoient des villes très très différentes, dont il est impossible de brosser le portrait robot. Certaines sont industrielles, d'autres résidentielles, certaines sont en plein boom, d'autres perdent des habitants. Il y en a encore d'autres qui ont un centre-ville totalement dévitalisé, mais qui s'étendent en périphérie.
Alors la ville moyenne est un objet urbain non identifié. Qu'est-ce qui la rend si séduisante aux yeux des Français ?
En fait, c'est avant tout une question de perception. Les Français y voient un havre de paix au charme d'antan, loin des cœurs de métropole et de leurs prix démesurés. La ville moyenne rassure. Elle rassemble le meilleur des deux mondes, une sorte d'entre-deux entre la ville et la campagne. Ça, c'est pour la perception. Côté réalité, que nous montrent les chiffres de l'INSEE ? Ce qui intéresse les Français dans leur choix de résidence, ce sont les opportunités d'emploi, de formation, de projet. C'est pourquoi il y a fort à parier que ma ville demain, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, sera toujours située dans une aire urbaine parce que c'est là que se créent les emplois et se développe l'innovation. Et ça ne nous empêchera pas de continuer à fantasmer sur la ville moyenne.
Et oui, on n'arrête pas comme ça. Merci beaucoup Cécile Maisonneuve. Ma ville demain, c'est tout l'été sur France Info.
Sujet numéro 3. Vous avez une minute pour lire les titres. Vous allez écouter trois documents sonores. Document numéro 1.
Aux Arbres Citoyens est née à La Rochelle. Cette association met en relation des cueilleurs bénévoles et des particuliers débordés par la production de leurs arbres fruitiers ou bien qui ne sont plus en mesure physiquement de récolter tous leurs fruits. Il s'agit curieusement de la toute première association de ce type en France. Aux Arbres Citoyens a été créée à la sortie du premier confinement par Coralie Tinet-Versailles à la suite d'un double constat.
Le premier constat, c'est que chaque année, dans les jardins, des gens se perdent de nombreux fruits parce que leurs propriétaires n'ont pas le temps de les ramasser ou même tout simplement parce que parfois la nature est tellement prolifique qu'on ne sait plus quoi faire des fruits lorsqu'ils arrivent à maturité.
Document numéro 2.
Les Cuisiniers Solidaires, c'est une association vannetaise créée en 2015. Elle a été récompensée récemment par le prix spécial du jury Ensemble des Trophées Bretons du Développement Durable. La cuisine est au centre des préoccupations et des actions. Il s'agit d'accompagner les familles, les enfants et tous les cuisiniers à mieux manger en gaspillant le moins possible de produits. L'association agit dans les quartiers, dans les entreprises, lors de rendez-vous festifs bretons, auprès des jeunes, auprès des plus précaires et de tous ceux qui souhaitent se nourrir de façon plus économique et saine, plus solidaire et conviviale aussi.
Document numéro 3.
Nous pouvons tous nous engager contre le gaspillage alimentaire en achetant plus juste ou en consommant différemment. Une jeune centralienne est devenue très sensible au gaspillage après un début de carrière malheureux dans l'industrie agroalimentaire. Lucie Bache, c'est son nom, a eu l'idée de créer une plateforme sur laquelle les commerçants de produits de bouche peuvent mettre en ligne les invendus. Les paniers sont ensuite récupérés pour quelques euros par les habitants du quartier à l'heure de la fermeture.
Document numéro 1, deuxième écoute.
Aux Arbres Citoyens est née à La Rochelle. Cette association met en relation des cueilleurs bénévoles et des particuliers débordés par la production de leurs arbres fruitiers ou bien qui ne sont plus en mesure physiquement de récolter tous leurs fruits. Il s'agit curieusement de la toute première association de ce type en France. Aux Arbres Citoyens a été créée à la sortie du premier confinement par Coralie Tiné-Versailles à la suite d'un double constat.
Le premier constat, c'est que chaque année, dans les jardins, des gens se perdent de nombreux fruits parce que leurs propriétaires n'ont pas le temps de les ramasser ou même tout simplement parce que parfois la nature est tellement prolifique qu'on ne sait plus quoi faire des fruits lorsqu'ils arrivent à maturité.
Document numéro 2, deuxième écoute.
Les Cuisiniers Solidaires, c'est une association vannetaise créée en 2015. Elle a été récompensée récemment par le prix spécial du jury Ensemble des Trophées Bretons du Développement Durable. La cuisine est au centre des préoccupations et des actions. Il s'agit d'accompagner les familles, les enfants et tous les cuisiniers à mieux manger en gaspillant le moins possible de produits. L'association agit dans les quartiers, dans les entreprises, lors de rendez-vous festifs bretons, auprès des jeunes, auprès des plus précaires et de tous ceux qui souhaitent se nourrir de façon plus économique et saine, plus solidaire et conviviale aussi.
Document numéro 3, deuxième écoute.
Nous pouvons tous nous engager contre le gaspillage alimentaire en achetant plus juste ou en consommant différemment. Une jeune centralienne est devenue très sensible au gaspillage après un début de carrière malheureux dans l'industrie agroalimentaire. Lucie Bache, c'est son nom, a eu l'idée de créer une plateforme sur laquelle les commerçants de produits de bouche peuvent mettre en ligne les invendus. Les paniers sont ensuite récupérés pour quelques euros par les habitants du quartier à l'heure de la fermeture.
Fin de l'examen de compréhension de l'oral.